Les pieds sur terre, Sonia Krönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
L'affaire a fait la une du New York Times sous le titre « Oui, il existe en France un McDo que les gens aiment et défendent, enfin surtout les salariés ». Sous la plume du brillant Adam Nociter, l'article rappelle d'abord avec une certaine délectation le démontage pierre par pierre du McDo de Millau en août 1999, suivi de l'incarcération de José Bové, symbole du combat d'une certaine France contre une malbouffe américaine. 20 ans plus tard, en 2018, nous voici avec les mêmes, ou presque, militants d'Attaque et de la Confédération paysanne, qui avec d'autres se dressent désormais vent debout contre la fermeture d'un McDo, dans le quartier de Saint-Barthélemy à Marseille. Le fast-food au cœur des quartiers nord est déficitaire depuis 2009, il doit être cédé à un obscur repreneur, la société Ali Food, qui souhaite établir à la place un restaurant asiatique halal. Aussitôt, les travailleurs et les habitants du quartier protestent. C'est non seulement le deuxième pourvoyeur d'emploi du quartier, mais aussi un des seuls lieux où on retrouve les copains, où on trouve son premier job, et pour certains, du boulot en sortant de prison. De leur côté, les protestataires historiques emboîtent le pas. Comment en est-on arrivé à un tel paradoxe? Comment un McDo peut-il être vu aujourd'hui comme appartenant quasiment au patrimoine, comme un symbole social positif en tout cas? Est-ce que les hamburgers sont devenus bio, à moins que ce ne soient les repas halal qui leur restent en travers de la gorge? Les salariés en tout cas ont porté plainte contre X pour tentative d'escroquerie, en avançant que la vente du McDo était un plan social déguisé, orchestré par une société fictive. Après 5 mois de bataille sociale et judiciaire, le tribunal de grande instance de Marseille a rendu son verdict le 7 septembre. Et c'est un reportage, tout de suite dans les pieds sur terre, d'Émilie Chaudet.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Salim Grapsi, je suis membre du syndicat des quartiers populaires de Marseille. Et je travaille au lycée Diderot. Là, vous êtes au cœur des quartiers populaires de Marseille. En face de vous, vous avez la cité Fontvert. Vous avez Picon, Busserine. Plus haut, vous avez les Flamands, les Iris. Vous avez les HLM de Jean Jaurès. C'est-à-dire, l'air de rien, plus de 30 000 personnes qui sont dans ce secteur-là. Là, ce que vous voyez en face, la boulangerie, la coiffure, le buraliste, l'alimentation, les fruits et légumes, tout ça, ça ferme. Tout ça, ça doit disparaître. On a été impacté cet été par 2 Carrefour Market qui ont été fermés, avec 20 salariés à chaque fois, des quartiers populaires qui, du jour au lendemain, ont fermé. À part les grands groupes tels que Carrefour, McDo, on n'a pas de perspective dans ces quartiers-là, des perspectives d'avenir concernant l'emploi. Pourquoi on se bat aussi? Parce qu'en fait, ce McDo, il est là depuis 1992. Et ça va peut-être choquer, mais il fait partie du patrimoine local. Il y a quelques années, il y a une église qui est juste derrière, au niveau de la Busserine, qui devait être détruite. On s'est tous mobilisés pour pouvoir la garder. Pourquoi? Parce que à travers le clocher, on n'a pas de minaret, mais à travers le clocher ici, à travers McDo, c'est vraiment la place du village. Ça permet à des mamans, à des moins jeunes, des plus jeunes, de pouvoir se donner rendez-vous ici et de pouvoir discuter. Telle l'église, telle la mairie, pour nous maintenant, le McDo, il fait partie du paysage local.
Alors moi, j'ai été pendant 11 ans directrice du centre social de la Busserine, juste donc en face du McDonald's. Et quand j'avais des rendez-vous avec des partenaires extérieurs et qu'ils ne connaissaient pas où nous étions, où c'était compliqué de se retrouver dans un labyrinthe, souvent de rues qui ne portent pas de nom parce que c'est des rues privées qui appartiennent à des bailleurs, le point de rencontre, c'était le McDonald's, parce que le McDonald's, c'est un lieu qui est facilement repérable pour n'importe quel de nos concitoyens. C'est un point de rencontre. Ce restaurant asiatique halal ne tiendra pas la route. Ils se sont permis une étude ethnique, McDo, une étude ethnique sauvage.
Moi, j'ai appris personnellement cette enquête ethnique qui a été menée par McDo et par le franchisé il y a un mois de ça, lorsque les salariés... J'arrivais pas à le croire. Tant que je le lisais pas, je pouvais pas le croire, honnêtement. noir sur blanc, il est dit que des quartiers, le quartier nord et le Grand Saint-Barthélemy, ce sont une population à forte concentration musulmane. Lorsque j'ai vu ce papier-là, j'ai été bouleversé. Hein. Je me suis dit, mais au nom de quoi ils peuvent nous stigmatiser de la sorte et nous coller une étiquette?
Ce restaurant asiatique halal, c'est encore un enfermement communautaire dans lequel on nous enferme. Et après, on va nous condamner parce qu'on est dans un processus communautariste. Je ne peux même pas envisager la disparition de ce McDonald's. C'est impossible pour nous. Qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait d'autre? Le énième centre médical? La énième pharmacie? Parce qu'en fait, c'est ça qu'on voit se multiplier. C'est que des services à la personne en termes médicaux. Nous sommes que des gens malades ici. On n'a pas droit à autre chose. McDonald's, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, dans des quartiers comme ça, ça nous connecte au monde. Et on a besoin d'être connectés aux autres. Je suis en colère. Il y a peu de choses dans ces quartiers. Pourquoi enlever le peu de choses? Laissez-nous d'autres espaces de respiration où on peut rencontrer d'autres gens que nous-mêmes.
L'investissement de ces salariés-là, de sécuriser un endroit comme ça dans les quartiers où nous sommes, de permettre à des familles de pouvoir sortir avec leurs enfants, de pouvoir se reposer, de pouvoir souffler pendant quelques heures dans la journée, c'est énorme dans nos quartiers. C'est énorme. Et McDo France, au lieu de féliciter ces salariés, au lieu de leur remettre une médaille, de leur dire « Mais mon Dieu, vous êtes en train de donner un visage humain à une firme qui est discréditée, qui est montrée du doigt à travers la France et le monde », ils font le contraire, ils veulent les éliminer. C'est impensable. Moi, il y a des jeunes salariés ici qui m'ont dit « La violence du quartier, on la connaît, mais on ne pensait pas qu'il y avait une telle violence au niveau du travail avec les supérieurs hiérarchiques et avec l'enseigne. »
Je m'appelle Hervé Thomas et j'ai 65 ans. Je suis un militant d'attaque de base et puis j'étais cheminot.
Confédération paysanne, militant d'attaque qui court à la défense d'un McDo, c'est quand même bizarre.
Alors oui, il y a une sorte de paradoxe entre l'image de McDo qui est la malbouffe et même la proposition qu'il y a eu d'une organisation syndicale de passer en SCOP pour un McDo, ce qui paraît complètement ahurissant, même du point de vue du fonctionnement, alors que McDo fonctionne avec une idéologie de manager et de gens qui obéissent. Et les salariés de McDo, c'est des salariés à part entière et ils ont le droit d'avoir plus de droits, d'avoir un bon salaire. Il y a 2 ans à Marseille, on a occupé un McDo, Attaque Marseille, notamment pour réclamer que les salariés de McDo aient un salaire horaire de 13 €. Donc c'est la place, elle est toute naturelle, même si elle peut paraître paradoxale, la place d'Attaque, c'est d'être dans le mouvement social.
Et quand est-ce que vous avez décidé, au sein d'Attaque, de vous mobiliser pour la défense des salariés du McDonald's?
Immédiatement. Et on a, depuis 2 ans, des contacts réguliers avec des représentants syndicaux de McDo. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Mais donc voilà, et là, il y a eu cette histoire particulière hein, qui date de quelques mois. Donc on est tout de suite à leur côté. La particularité, c'est que le McDo de Saint-Barthélemy, c'est celui où il y a tous les représentants syndicaux, où tous les gens sont en CDI et où ils ont le plus de droits sociaux de bien des restaurants McDo. Et qu'il n'y a pas de hasard dans le dépeçage d'une entreprise. Là où il y a des droits, c'est là où on dépece en priorité.
Vous pensez que ce restaurant est ciblé parce que les salariés savent se défendre?
Clairement, ouais. Et parce qu'ils ont des droits. Ah bah alors là...
Certitude. Oui. Ce restaurant avait une équipe syndicale très dynamique. Et tout laisse à penser que sa liquidation vise à liquider une structure syndicale cohérente chez McDo. Maintenant, il est évident que la malbouffe reste un problème central et que dans un monde parallèle, on aurait pu rêver de la réouverture de ce restaurant sous la forme d'une merveilleuse coopérative faisant des McDo bio que nous aurions tous été nous délectés. Nous, Marseillais, dans ce quartier un peu excentré, et en sachant que nous sommes dans une ville dans laquelle la circulation est très difficile, puisque les transports en commun sont insuffisants, donc les gens ont tendance à vivre là où ils habitent. Imaginez que dans ce quartier de Saint-Barthélemy, on va faire travailler 70 personnes dans un resto, ce serait déjà quelque chose de difficile.
Je m'appelle Guémarie Kamel, j'ai 37 ans. Ça fait 20 ans que je suis salarié chez McDonald's. Vu l'échec scolaire que j'ai eu, et quand on est un enfant avec peu de confiance, j'avais deux choix. Soit me manifester à travers la délinquance et chercher à exister dans ce monde, ou par le travail. J'avais 16 ans et demi, j'allais faire 17 ans. J'ai mis toute une nuit à réfléchir pour comment je vais faire pour demander est-ce qu'ils peuvent m'embaucher. C'était rare pour nous de sortir du quartier. Donc quand je suis arrivé, j'avais l'appréhension de dire s'ils ne m'accordent pas cette chance. J'ai pris mon courage à deux mains, je me suis dit j'ai rien à perdre. Je vais demander juste comme ça, au culot. Je suis venu deux semaines avant, la période de vacances. Ils m'ont dit oui. Et sur place, on m'a aidé à faire mon CV, ma lettre de motivation. Et ils m'ont donné ma première tenue. J'étais content, fier. Et du jour au lendemain, quand je suis rentré à McDo, j'ai été formé en premier lieu en cuisine. Une fois que j'ai pu prendre la caisse, j'ai pu maîtriser le drive et tout autre poste, là, j'ai commencé à passer un échelon au-dessus. Et aujourd'hui, je suis sous-directeur. C'était le 7 août. La veille, je n'ai pas dormi. J'ai pleuré comme un bébé parce que se dire tant de souvenirs, perdre ce lieu de vie et le travail qu'on a fait pendant toutes ces années-là, part en fumée, c'est pas juste. Et là, quand ils ont commencé ce processus de cession, ils ont commencé le 7 mai et finissaient le 7 août. Se dire le 7 août, c'était à l'effondrement, au chômage.
Parce qu'il était prévu que le repreneur...
Le reprenait le 8. Sachant que quand on est parti taper à la mairie, pas de permis de construire, on a rencontré à plusieurs reprises l'inspection de travail pour demander est-ce qu'il y a eu un dossier de chômage qui a été déposé. Jamais. Le repreneur qu'on n'a jamais vu. McDonald's, on les a invités au CE, n'ont jamais voulu répondre. J'étais dans tous mes états, en larmes. Quand je suis arrivé le 7, j'ai rencontré les salariés. Ils m'ont dit, comment on fait? Je ne savais plus quoi leur dire. J'avais plus de mots. Tous les soirs, à 2h, minuit, ils m'appelaient, je répondais. J'essayais de les raisonner, essayer de trouver les mots. Et là, le 7, je me suis dit, il faudrait que j'en finisse une fois pour toutes, que je leur montre à ces personnes qui n'ont aucune fibre humaine, qu'il y a des salariés, qu'il y a des êtres humains. Je me suis dit, je vais en finir avec moi-même. J'avais plus assez de larmes à verser ou de continuer à les verser avec eux. Mon seul moyen, c'est d'arrêter ce cauchemar. J'avais honte, j'étais pas bien. Je me suis enfermé dans le restaurant, j'ai sorti tout le monde à l'extérieur. Et une fois que j'ai sorti tout le monde, je me suis enfermé.
En fait, vous avez essayé de vous immoler par le feu, enfin, vous étiez prêt à faire ça?
Ah oui, j'avais plus rien à perdre. De voir une femme comme Cécile, 55 ou 56 ans, ou Aïcha, ou... Marie-France, Stéphane, que ce n'était pas qu'un job, on vient, on bosse et on se casse chez soi. Même quand on ne travaille pas, on est là. Quand je voyais tous ces salariés autour du restaurant, toutes les personnes qui me connaissent, j'ai essayé de me dire que je n'ai pas le droit de baisser les bras. J'étais tellement mal, j'étais avec tout le long avec la police au téléphone. Ils essayaient de me raisonner, de m'ont fait comprendre que je ne méritais pas ça, que j'étais un père de famille. Il y a d'autres méthodes, d'autres moyens face à une multinationale. Et ensuite, je suis sorti. Après, bon, j'ai été hospitalisé, je suis encore sous cachet. Ma force aujourd'hui, c'est nous.
Sculpture, les pieds sur terre.
Je m'appelle Nour, je suis manager à Saint-Barthélemy. Ça fait 20 ans que je suis dans l'enseigne McDo. Là, on combat pour nos emplois.
Comment vous vous sentez là?
Ben, avec le stress, hein, de toute façon, depuis le temps. Moi, je dors tout le temps au McDo, de toute façon. Depuis le 6 août, je suis installé là-bas, tout simplement. Voilà, pour leur faire montrer qu'on est là, qu'on ne lâchera rien, c'est tout. Bon, je bouge, je vais prendre une douche, me changer quand même. Mais je reviens de suite. Il y a une maman qui est du quartier, qui est une cliente. Il y a des personnes d'autres McDo qui sont avec nous, qui nous soutiennent. Et il y en a de certaines de nous. Donc on tourne et voilà. On a dit on bloque le restaurant et on reste dedans jusqu'à que tout se finisse. Même peut-être après. On va voir ce qu'on va faire après, par la suite. Mais on continue à travailler par contre. Mais avec pas beaucoup d'effectifs. Quand on n'a pas assez d'effectifs, on ferme le restaurant. Parce qu'on a eu aussi une agression, c'était le 5. C'était un dimanche. Un groupe de personnes qui est venu nous ont agressés. Il y a eu un petit problème avec une cliente. C'était pour une attente d'un sandwich. Bon, après, le manager a résolu le problème. Et d'un seul coup, on a vu des personnes arriver comme ça, de tous les côtés, au moins une quinzaine de personnes. Il y a des coups qui sont partis, il y avait même un couteau. Ça s'est passé sur la terrasse. Notre terrasse, elle est large, on peut venir de plusieurs côtés. Nous, on essaie de mettre en sécurité les employés plus les gens qui étaient sur la terrasse. Il y avait des mamans avec leurs enfants et nous, on était là à protéger, à faire entrer tout ce qu'on pouvait à faire entrer dans le restaurant. Quand on est rentré dans le restaurant, ils tapaient sur les vitres, ils faisaient des gestes, décapités, quoi, égorgés. Quand on a rentré tout le monde, moi-même les employés, il y avait certains, ils voulaient ressortir et tout ça. J'ai dit, t'es fou. Il y avait même une fille qui s'est fait frapper par un des agresseurs. Elle lui a pété moitié de la dent, elle a pris un coup sur l'œil. Les personnes qui étaient les plus atteintes, par les coups et tout ça, ils sont partis aux urgences. J'étais resté même jusqu'à 5 heures du matin. Moi, j'étais là avec eux, je suis resté avec eux. La moitié des employés qui étaient là, ils sont en accident de travail jusqu'à présent. Ça les a traumatisés. Il y en a certains qui ont posé leur démission. Moi, je les ai vus en pleurs. On a appelé la police et tout ça, mais bon, ça a mis presque, on a appelé au moins une dizaine de fois. Presque une heure après, ils sont venus, quand tout était terminé. Et en même temps, après, quand ils sont partis, le groupe, là, ils nous ont dit, de toute façon, on va revenir, c'est chez nous. Vous savez, quand on dit, on reviendra, on est chez nous. Nous, on se fait plein de films, hein. Avec tout ce qui se passe. On a déjà peur pour perdre nos emplois et après peur après des représailles. On est dans un climat violent.
Je m'appelle Nourdine, j'ai 27 ans. Ici, on est dans la cité qui côtoie le McDo, c'est Picon. Avec ce McDo, ben, c'était peut-être la sortie du week-end avec la famille. Les parents nous faisaient plaisir, on nous amenait au McDo quand on était plus jeunes. Et plus tard, ben, c'est devenu aussi une bouée de sauvetage pour moi. Parce que j'ai eu quelques soucis dans ma vie. J'ai été incarcéré, première incarcération en tant que mineur, et puis j'étais ressorti à l'âge de 17 ans. c'était du vol avec armes. Donc c'était parti un peu mauvais. Bon, j'ai continué aussi mes études, j'ai eu mon bac. Bac économique et social, c'est un point peut-être positif. Il faut dire qu'on a quand même envie, donc malgré toutes ces conneries-là, on fait des efforts pour essayer d'y arriver. Après, par derrière, j'ai pas eu forcément de débouchés concrets. On ne demande pas forcément aux parents d'arriver à un certain âge parce qu'on sait aussi qu'ils sont dans une situation un peu au bord de la limite. Voilà, se lever le matin à 4h du matin, nettoyer les tours tous les jours pour peut-être 1000 euros et payer un loyer, tout ça, avec 2000 euros et 3 enfants en charge, c'est pas plaisant, ça fait pas plaisir de voir ses parents travailler dans des conditions comme ça. Et quand on voit que c'est, ils se donnent du mal pour nous, alors arrivé à un certain âge, on se dit qu'aussi on va essayer de les aider. Peut-être on ne les aide pas forcément, c'est pas la meilleure des façons, mais c'est ce qu'on trouve. Et donc on essaie de se débrouiller par soi-même et on commence à faire 2-3 petites bêtises pour essayer de peut-être de leur enlever un poids aussi. C'est peut-être leur enlever un poids à eux, de se dire qu'on est un peu aussi autonome, même si on ne le fait pas forcément très bien. Ça peut être du vol, ça peut être du trafic de drogue, ça peut être de la revente, c'est peut-être du matériel IFI. C'est pas forcément quelque chose dont je suis ravi. Je m'en vante pas du tout parce qu'ensuite il est arrivé une deuxième fois, je me suis fait attraper, donc je suis rentré encore une fois en prison. J'avais 22 ans. J'étais parti pour faire plus de 2 ans et au bout d'un an, j'ai un ami, un bon ami à moi, qui m'a proposé en allant voir mes parents, de voir quelqu'un qu'il connaissait pour voir s'il pouvait peut-être m'aider à sortir là-bas en avance, en m'offrant peut-être une promesse d'embauche déjà et ensuite travailler. J'ai accepté parce qu'il vaut mieux être à l'extérieur qu'en prison. Même si McDo au début vous dites c'est pas fameux parce que voilà on va faire des sandwichs, on est là. C'est pas peut-être pas le meilleur des boulots, mais par la suite j'ai trouvé quelque chose qui était mieux qu'encore un travail. Parce que ces personnes-là se sont données, m'ont fait confiance sans me connaître. Ça veut dire qu'ils ont entendu ma situation, ils ont écouté. Et il y avait mes parents et ma femme aussi qui s'étaient occupés pour faire la jointure avec mon avocat et les juges et les récupérer les papiers. Pendant que j'étais en prison, tout ça, donc ça veut dire que j'ai demandé une liberté, de refaire une liberté conditionnelle ou un bracelet. Bon, on m'a accepté la liberté conditionnelle parce que je travaillais sur la journée, c'était peut-être plus facile. Et à la suite de ça, je suis sorti et j'ai commencé à travailler.
Et au début, vous étiez content de sortir de prison pour aller travailler au McDo ?
Content de sortir, oui. Pour aller travailler au McDo, pas forcément, parce qu'au début, on se dit qu'on voit peut-être mieux que ça. J'avais prévu de reprendre en sortant des activités un peu illicites. Parce que c'est un peu ce qu'on connaît. Enfin, peut-être la débrouille, peut-être pas forcément une chose, mais de se débrouiller, peut-être de bosser à côté. Mais quand on ne trouve pas quelque chose qui vous convient ou qu'on ne sait pas forcément où chercher, qu'on n'arrive pas forcément à trouver ou à monter ce qu'on veut monter, en général, on abandonne vite parce qu'on se dit qu'en fait, on est tout seul. Donc, autant se débrouiller parce qu'on connaît, ce sera peut-être plus dangereux, mais au moins, on sait faire ça. Ils ont fait un travail formidable de réinsertion avec moi. Ils m'ont offert un travail. Enfin, c'était vraiment de la confiance que je n'avais jamais vu avant ça. Au début, c'était un peu compliqué. J'avais beaucoup de mal aussi à m'intégrer avec les personnes parce que j'étais pas forcément dans la même attitude. Mais ils ont pris le temps et m'ont motivé, m'ont montré qu'avec le travail, on pouvait arriver à un certain but. Là, je viens de passer formateur. J'ai pris aussi un deuxième emploi en intérim. On ne peut pas forcément jouir du salaire de McDo quand vous êtes peut-être à 20 heures, vous gagnez 700 euros, arrivez à 26, 27 ans. C'est pas forcément assez. On est payé quasiment une misère, 7,92 € de l'heure, quoi, quelque chose comme ça. C'est vraiment le SMIC minimum. On est 77 salariés. Il y en a qui partent aussi parce qu'ils trouvent quelque chose, un travail pour plus tard. Mais quand ils partent, c'est d'autres jeunes de ces cités-là qui les remplacent. Il y a 40 contrats étudiants, peut-être 40 à 50 contrats étudiants sur le McDo. Donc ça veut dire qu'en fait, que s'ils ferment, ces jeunes-là qui sont derrière nous, ils sont plus jeunes que nous, donc ça pourrait être mes petites sœurs, ça pourrait être mes petits frères, eux n'auront pas cette chance de se dire si je vais à l'école, je pourrais avoir peut-être un boulot d'étudiant à côté. Donc il faudra encore aller peut-être chercher du travail encore plus loin, et comme on a 16-17 ans, on n'a pas forcément de moyens de locomotion, on n'a pas de... Donc en fait, c'est pas que les 77 salariés qui sont amputés, c'est peut-être les 77 autres qui attendent de se dire on va grandir et qu'on va aller à l'école et on va peut-être bosser pour gagner 3 francs 6 sous à côté. C'est un travail, McDo. Peut-être c'est un job d'étudiant au début, mais j'ai vu que je me suis trompé. Si j'ai ça, c'est pas énorme, mais c'est mieux que ce que j'avais avant.
I've been searching for answers since 9. Everything goes and comes on time. Everything goes and comes in time.
Le McDo de la Discorde, c'était un reportage d'Émilie Chaudet réalisé par Anne-Laure Chanel. Sachez que le 7 septembre, donc, le tribunal de grande instance de Marseille a donné raison au contestataire. La cession du McDo à la société Alifood a été rejetée. Vive McDo! Merci à Karima, à Salim, à Kamel, à Tony, à Céline, à Nordine, à Nour et à Maître Ralph Blindauer. C'est Jeanne Delecroix, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et c'est Camille Richir, notre stagiaire.
You've been breaking your heart since 9. Everything goes and comes in time. Everything goes. Everything goes.